Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis.
Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez de fruits. Je fais de vous mes frères et mes amis.
Qu'est-ce qui fait le succès d'un chant de messe? Ce sont les paroles, là ici tirées de l'Évangile. Est-ce que c'est la mélodie qui les met en valeur? C'est la personne qui les chante. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi par trois fois dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus le dit à ses disciples. À trois moments qui sont trois moments décisifs. Au moment de la profession de foi de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus répond, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze? Au lavement des pieds. Heureux êtes-vous si vous le faites, ce n'est pas de vous tous que je parle, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Et puis, à l'envoi en mission, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jésus a choisi ses disciples, il les a choisis, il ne les a pas séduits. Ces trois temps décisifs, déterminants, disent un acte libre d'adhésion, la profession de foi de Pierre, même on pourrait dire un acte inspiré sous l'action du Saint-Esprit. Ensuite, au lavement des pieds, le sens du service. Et puis, à l'envoi en mission, l'ouverture aux autres. Tout le contraire de la séduction. La séduction qui est une emprise, qui cherche à dominer et surtout qui garde pour soi. À l'époque de Jésus, les disciples choisissaient leur maître spirituel. On en a des échos dans l'Évangile, notamment quand un homme un jour lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Et aujourd'hui encore, tout croyant, tout fidèle, tout baptisé est libre. Libre de choisir, on ne va pas dire son prêtre, un père spirituel, un confesseur. Avec un équilibre à tenir entre cette liberté et puis le lien que nous avons tous par notre baptême, l'appartenance à une communauté, que ce soit une paroisse ou une communauté religieuse. Séduire, ça veut dire emmener à l'écart. Le mot apparaît dans le livre du prophète Osée de la part du Seigneur qui dit « Mon épouse infidèle, je vais la séduire ». Je vais l'emmener au désert et je parlerai à son cœur. Mais séduire son épouse infidèle, c'est la ramener sur le bon chemin. C'est lui rappeler ce que le livre de l'Apocalypse appelle ton premier amour. J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Jésus choisit ses disciples. Il est Dieu. Il est créateur, sauveur, il est le rédempteur. Les prêtres ne choisissent pas les fidèles. Nous ne vous choisissons pas, ni les baptisés, ni les croyants. Nous avons pour mission de vous guider avec prudence, sans jamais nous substituer à Dieu, en nous gardant de toute manœuvre de séduction. Notre rôle, c'est de ramener à Dieu et à l'Église tous ceux qui sont justement à l'écart. Nous avons la chance d'avoir parmi nos paroissiens une femme médecin, psy, catholique, profondément catholique, qui s'est spécialisée depuis une vingtaine d'années dans le domaine des abus sexuels, psychologiques, spirituels. Et elle a été invitée récemment par les congrégations de toutes les responsables de toutes les congrégations religieuses nationales pour les aider à rappeler, repréciser, reformuler les règles fondamentales de ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. J'en parle parce que son texte, son propos est accessible sur le site de la documentation catholique. Il est ouvert et public. Ce sont des règles très importantes qui définissent la juste relation entre un accompagnateur et l'accompagné. Une juste distance, d'abord une distance physique, qui exige, et il faut le rappeler aujourd'hui, qu'il n'y ait aucun contact physique. Une distance psychologique et spirituelle pour préserver toujours la liberté intérieure de la personne qui est accompagnée. L'accompagnement spirituel, ce n'est pas un partage d'amitié, c'est une guidance inspirée qui se remet sous les yeux de Dieu, qui invoque le Saint-Esprit, et dont le but est que la personne puisse avancer librement dans son chemin de foi et d'union à Dieu. La personne qui se fait accompagner, aussi bien un accompagnement psychologique que spirituel, donne sa confiance à la personne qui l'accompagne. Celle-ci, dès lors, en prend la responsabilité, on va même dire toute la responsabilité, et on ne peut plus parler à ce moment-là d'une relation entre adultes, d'une relation, vous savez l'expression qu'on utilise, de librement consentie. Tout accompagnateur sait tous les risques de transfert, d'attachement, de projection qui peuvent se produire. Et c'est son métier, c'est à lui de les gérer, justement dans le respect de la personne. On pourrait reprendre toutes ces règles, il y en a une essentielle sur le secret. Le secret oblige l'accompagnateur, toutes les confidences qui lui sont faites, tout ce qui est le contenu de tout ce qui peut se passer, mais n'oblige pas la personne qui se fait accompagner. Qui peut parler, à qui elle le souhaite, du contenu, et qui peut même régulièrement vérifier le contenu de ses enseignements. C'est une notion qui a été très manipulée que celle de l'amitié spirituelle. C'est une notion délicate, et c'est une notion en particulier délicate que l'amitié spirituelle avec un prêtre. Je dis parfois qu'un prêtre peut devenir votre ami quand il n'est plus votre curé, quand il n'est plus votre confesseur, quand il n'est plus votre aumônier, quand il n'est plus dans une relation d'autorité. C'est au moment où Jésus quitte ses disciples qu'il les appelle mes amis. Il leur dit, c'est à ce moment-là, c'est au moment de les quitter qu'il dit mes amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître pour, d'une certaine façon, pour que vous preniez la suite. Pour qu'à votre tour, vous conduisiez vos frères, vous fassiez connaître le Père à vos frères. Le propre de l'amitié, c'est de ne jamais nous laisser ou nous tenir à l'écart. Et c'est le contraire de la séduction. Le maître mot de la séduction, c'est justement l'écart. Saint Paul, nous avons fêté hier le 25 janvier la conversion de Saint Paul. Ce qu'on peut dire de Saint Paul, c'est que c'était un homme qui ne cherchait pas à plaire. Et on peut même dire que c'est un critère de l'appel par Jésus de ses disciples, des hommes qui étaient tous sauf séduisants, ni socialement, ni intellectuellement. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle le message du Christ prend cette forme difficile, rigoureuse, exigeante du commandement et du sacrifice. Mon commandement, le voici, il est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à la mort de la croix. Comment est-ce qu'on reconnaît un séducteur ou une séductrice ? Par le lien privilégié et exclusif qu'il ou elle essaye d'établir avec vous. Le serpent, qui était rusé, dit à la femme, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Quelle injustice ! Comparé avec la première parole publique de Jésus, « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche !» Vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut changer. Lorsqu'il a présenté ses vœux juste avant Noël aux cardinaux de la Curie, le pape François, qui les avait quand même bien secoués les années précédentes, a fait le point sur les réformes en cours, sur la nécessité de ces changements, et il a cité le cardinal Newman. Ici, sur Terre, vivre, c'est changer. Vivre, c'est changer. Et la perfection est le résultat de nombreuses transformations. Le changement, il n'a pas de valeur en lui-même, il n'a pas de valeur en soi. Il est simplement une caractéristique de notre existence. Mais surtout, il n'est vivable. Il n'est vivable que si nous mettons au centre de tout, si nous mettons au centre de notre vie, la stabilité de Dieu. C'est une très belle prière de Newman qui dit « Il n'y a rien de stable en dehors de toi, ô mon Dieu. Tu es le centre, tu es la vie de tous ceux qui changent, qui se confient en toi comme leur père, qui ont les yeux tournés vers toi, qui sont fiers de se remettre entre tes mains. Je sais, mon Dieu, que si je veux voir ta face, je dois changer. » Et il faut ajouter, après le caractère permanent, incessant des changements dans notre vie, après avoir rappelé que la seule possibilité de les vivre, c'est en prenant appui sur Dieu. Le troisième élément fondamental, c'est que ce changement ne soit pas superficiel, extérieur, même pas seulement technique ou matériel. C'est ce que la foi appelle une conversion, c'est-à-dire une transformation intérieure. Dans son autobiographie, Newman raconte « Au moment de ma conversion, je n'ai pas eu conscience d'un quelconque changement intellectuel ou moral qui soit advenu dans mon esprit. » Et il a cette très belle image « Il me semblait retourner au port après une navigation orageuse. » Vous savez le sentiment, certains d'entre vous l'ont vécu, d'être rentré à la maison, de se retrouver enfin soi-même en se remettant devant Dieu. Dès lors, dit Newman, mon bonheur a continué sans interruption jusqu'à aujourd'hui. C'est l'expérience de saint Augustin. Je te cherchais partout au dehors. Tu étais là, au-dedans de moi. La paix que le Seigneur nous donne. La paix qu'il nous demande de partager, de vivre entre nous. C'est d'abord une paix intérieure. Il est rare que nous ayons à choisir entre la mort et la vie. Il est très fréquent que nous ayons à choisir plutôt entre la séduction ou la paix. Et c'est une question à reprendre régulièrement. Est-ce que c'est séduisant, voire même excitant? Ou est-ce que c'est constructif et nourrissant ?